Interview. 1. Interview.
Ok, då börjar vi.
L'interview du jour.
Vous savez maintenant qui je suis. Un révolté vivant du produit des cambriolages. J'ai mis à nu toute mon existence de lutte. Je la soumets comme un problème à vos intelligences. Ne reconnaissant à personne le droit de me juger, je n'implore ni pardon ni indulgence. Mais avant de nous séparer, laissez-moi vous dire un dernier mot. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend.
Salut à tous, ici Aurélie pour Radio Diwa, à l'écoute sur le 107.5 FM pour les accros du transistor et pour les inconditionnels de la toile sur le www.rdwa.fr. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Yves Bonnardel. Yves Bonnardel qu'on a l'habitude de rencontrer à la radio puisqu'il vient régulièrement nous parler de sujets qui peuvent fâcher, en tout cas des sujets engagés. Et aujourd'hui, Yves, bonjour.
Oui, bonjour.
Tu viens nous parler d'Alexandre Marius Jacob. Alors c'est un anarchiste révolutionnaire fin 19e, début 20e,
oui.
Notamment puisque vous proposez, tes amis et toi, une lecture aux Loco-Loco le lundi 6 août à 21h à prix libre et le mardi 7 à 20h à la salle communale de Bellegarde en Diwa, donc organisée par le collectif Marie Vieille.
Oui, ça sera une lecture théâtrale, hein. Ce sont deux personnes de Périgueux qui sont des militants anarchistes qui viennent, qui passent par ici et qui vont en profiter pour faire cette représentation.
D'accord. Alors, ils font partie d'un collectif de quelque chose de ce type ?
Ils font partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Alexandre Marius Jacob.
Carrément, donc effectivement, il a des fans. Et faut le comprendre, enfin on peut le comprendre. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux Alexandre Marius Jacob qui a un petit peu révolutionné les techniques de cambriolage dans toute la France ?
Oui, je crois que c'est une figure modèle pour pas mal de gens. C'est quelqu'un qui s'est fait arrêter à l'âge de 25 ans et envoyé au bagne pour 20 ans. En fait, il a fait 25 ans de prison à la suite de son procès.
Il a fait 25 ans, 8 mois et 23 jours, mon cher.
C'est ça.
Et il est passé à côté de la mort.
Oui.
Enfin.
Oui, tout à fait. Quelqu'un, en tout cas, qui s'est fait arrêter à l'âge de 25 ans, avec un palmarès qui paraît aujourd'hui invraisemblable. Il avait organisé, et ça depuis des années, une bande de plus d'une quarantaine de cambrioleurs qui s'appelaient eux-mêmes les travailleurs de la nuit et qui écumaient toute la France et même au-delà des frontières, la Belgique et parfois le Royaume-Uni, etc. Et qui reversaient une partie du fruit de leur larcin à la cause anarchiste, notamment à la propagande par les journaux et... etc. C'est une organisation qui avait été fondée par Alexandre Marius Jacob, je ne sais pas à quel âge, mais avant ses 20 ans, je pense, et qui avait été fondée dans ce but-là, procurer de l'argent à la propagande anarchiste, à une époque où, de toute façon, toutes les menées révolutionnaires étaient assez sévèrement réprimées.
C'est ça. Alors, il est à l'initiative du cambriolage simultané, si je ne m'abuse.
Oui, notamment.
Et effectivement, alors on parle de reprise individuelle. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de cette reprise individuelle ? Qu'est-ce que c'est ?
Ça va être un petit peu l'intérêt aussi de ces lectures théâtrales, c'est que ça va être des textes même d'Alexandre Marius Jacob qui vont être lus. Ça va être des extraits de courriers qu'il a pu écrire quand il était au bagne. Mais ça va être également une partie du texte qu'il a lu lors de son procès et où il fait l'apologie, d'une certaine façon, l'apologie du vol. C'est-à-dire qu'il spécifie bien que dans une société égalitaire et libertaire, le vol ne serait pas du tout une chose souhaitable. Mais que dans une société où le vol est la généralité, où la propriété privée est en fin de compte, consiste en fin de compte en un vol d'une propriété collective, en une appropriation, et qui aboutit à plonger dans la misère la majeure partie de la population et à la déposséder de ses forces vives à travers le salariat notamment, il considère que le vol est une juste reprise et le vol révolutionnaire une reprise, comment dirais-je, enfin plus que légitime, c'est un dû quoi.
Alors effectivement, moi si je me fie un petit peu sur ce que j'ai trouvé sur internet, hein, Jacob, je ne connaissais pas, enfin, j'en avais entendu parler, je m'y suis un petit peu intéressée. Et alors il explique que dans la société, cette société ne lui offrait que trois moyens d'exister. Le travail, avec les méfaits que tu viens d'évoquer, la mendicité, où là on peut imaginer aussi l'aspect négatif de la chose, et le vol, où là effectivement il parle de restitution, de reprise de possession, et là on emploie les termes de reprise individuelle, on reprend finalement ce qui nous revient, c'est normal.
Oui. Et dans l'esprit d'Alexandre Marius Jacob, c'était clair qu'il ne le reprenait pas pour lui, mais pour une lutte qui était au profit de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que lui-même vivait extrêmement pauvrement, il vivait souvent avec des gens assez pauvres, il reversait bien plus que 10% du fruit de ses vols à la cause anarchiste. C'était la quasi-intégralité de ce qu'il pouvait voler, quoi.
Donc alors, vous basez sur quel document, quel livre ?
Alors, il y a eu plusieurs livres qui ont été publiés sur Alexandre Marius Jacob. Il y en a un qui est très bon, mais qui est romancé, mais qui se lit magnifiquement, qui est de Bernard Thomas, qui était chroniqueur au Canard Enchaîné, qui est mort malheureusement récemment. Qui s'appelle Alexandre Marius Jacob, qui est un très bon livre, bon, un petit peu romancé, certes. Il y a eu d'autres bouquins qui ont été publiés qui sont des fois un peu plus sérieux au niveau historique. Et enfin, il y a eu un travail de fond qui a été mené par une équipe liée aux éditions de l'Insomniac. Ce sont des éditions révolutionnaires basées sur la région parisienne. Ce sont deux énormes volumes qui regroupent l'ensemble des lettres qu'a pu écrire Marius Jacob et qui regroupent aussi les textes, notamment les déclarations publiques qu'il a pu faire lors de ses procès, etc.
Donc il avait d'ailleurs, lors de ses procès, déjà les jurés avaient du mal à se réunir parce qu'ils ne se voyaient pas juger quelqu'un qui œuvrait finalement pour la bonne cause. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son évolution à travers le temps ?
Je sais qu'il a été, il est issu d'une famille très pauvre, je crois, de Paris ou de la région parisienne. Et à un moment donné, il a dû s'engager comme mousse sur un navire. Et je crois qu'il avait 16 ans. En fait, il en est parti parce que je crois à cause des conditions de travail qui jugeaient inacceptables. Et il s'est retrouvé sur un navire qui servait de navire pirate en fait, mais un peu par hasard. Et il a assisté à une attaque de ce navire sur lequel il était, l'attaque de ce navire qui a attaqué un autre navire et où les pirates ont tué les occupants de l'autre navire. Ce qui est quelque chose qui l'a profondément horrifié et dégoûté. Et il s'est juré de tout faire pour ne pas en venir à des situations pareilles. Ce qui fait qu'une des règles des travailleurs de la nuit, l'organisation qu'il a fondée par la suite, qui était une organisation de voleurs, c'était vraiment d'éviter autant que possible, enfin de façon plus forte que ça, enfin, d'éviter par tous les moyens d'en être réduit à tuer...
D'avoir accès à la violence.
Oui.
Alors justement, il envoyait le plus menu de ses troupiers, on va dire ça. Et ce troupier rentrait par l'accès qu'il pouvait trouver. Et là, du coup, il avait accès à tous les trésors. Il ouvrait à ses collègues. Il raflait tout. Et avant même que les gens s'en aperçoivent, le butin était dans un train en direction du premier receleur qui pouvaient échanger cette monnaie, ces objets contre de la monnaie.
Oui, alors Marc Jacob était extrêmement organisateur. Ça a été lui le premier effectivement à utiliser de façon très systématique les trains pour rayonner dans toute la France. Et en fait, ils opéraient en fonction des horaires de train et en fonction des lignes. Ça a été aussi, il s'est aussi occupé d'acquérir une fonderie qui lui servait pour fondre les bijoux, donc une fonderie d'or qu'il avait acquise, qui était sa propriété de façon très, très légale, quoi. Mais il avait acquis également un magasin de vêtements qui servait pour les déguisements. Et également, last but not least, un magasin de coffre-fort qui lui permettait de tester les derniers modèles, de travailler tranquillement sur les méthodes pour les ouvrir, etc. Ce qui fait que sa bande de cambrioleurs était une bande extrêmement bien formée, organisée, qui bénéficiait du meilleur matériel et des circuits les meilleurs et les plus discrets pour écouler son matériel.
Et notamment camouflé par ses propres, par ses propres entreprises, donc c'est plutôt ingénieux.
Oui.
Allez, Marius Jacob se fait emprisonner quand même à un moment. Le jugement en 1905, alors je n'ai pas la date exacte, se déroule à Amiens. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Ben, c'est un jugement qui a eu des répercussions gigantesques. Parce que, d'abord, ce n'était pas courant, une organisation de cet ordre-là. Et puis, c'était clair qu'il y avait une ingéniosité et une volonté derrière tout ça qui était inhabituelle. Et aussi parce que les faits étaient affirmés, comment est-ce qu'on assumés, étaient, plus que ça, étaient revendiqués politiquement. Et il y a eu des consignes de sécurité qui étaient délirantes pour ce procès, qui a eu des répercussions médiatiques très très importantes, donc en 1905. On dit, alors je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est Bernard Thomas qui dit ça, donc le chroniqueur du Canard Enchaîné dont je parlais tout à l'heure, que le personnage de Marius Jacob aurait influencé Maurice Leblanc lorsqu'il a créé le personnage d'Arsène Lupin. Alors bon, évidemment, Maurice Leblanc a créé un personnage qui n'est pas un révolutionnaire, qui est une sorte de bourgeois aristo qui fréquente des bourgeois aristo et qui transporte finalement plutôt des valeurs bourgeoises, de profit personnel, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas d'Alexandre Marius Jacob qui, lui, était porté par des valeurs de solidarité de classe, de solidarité des pauvres et de façon générale de justice de classe et de justice révolutionnaire.
Le GAM, le groupe d'action musicale.
I'm gonna go get some more.
En tout cas, la justice arrive tant bien que mal à réunir les jurés nécessaires. Il se fait juger. Alors, est-ce que tu connais sa technique pour se faire accepter par son auditoire? Moi, j'ai entendu un truc tout à l'heure là-dessus.
Ah non, non, dis voir. Hein.
Donc, en gros, dès qu'un témoin arrive, notamment un curé, ben, il lui lance une petite réflexion qui va faire rire l'auditoire. Et puis, comme ça, il se le met dans sa poche. Et tout doucement, voilà, il arrive à conquérir le cœur et la morale de chacun des personnes, de chacune des personnes présentes. Donc ça, c'est une belle technique de manipulation et je crois qu'il ne le faisait pas sans raison. Toutefois, il est quand même jugé. Il est jugé non pas, il n'est condamné non pas à la mort, mais au bagne.
Il a été condamné à 20 ans de bagne, ce qui équivalait à la mort.
Ce qui équivalait à l'époque à la mort, puisqu'effectivement c'était des mouroirs.
C'était des mouroirs, je crois que l'espérance de vie était de moins de 10 ans dans les bagnes français.
Tu peux nous en parler un petit peu ?
Ben lui, je crois, était envoyé sur une île du côté de la Guyane. Je ne saurais plus dire précisément.
C'est sur Cayenne, c'est l'île du Salut.
L'île du Salut, voilà. On l'a bien nommée. Ben, c'était des conditions de vie extrêmement difficiles, des conditions climatiques très très dures, une alimentation qui était souvent insuffisante, des mesures vexatoires et disciplinaires qui paraîtraient aujourd'hui absolument ahurissantes, ce qui faisait qu'il y avait un tel taux de mortalité. Et Alexandre Marie Jacob y est resté 20 ans. Et au cours de ses 20 ans, il a fait 18 tentatives d'évasion. Donc, il n'en a pas réussi une, malheureusement. Il a failli, à un moment, arriver à faire sauter l'ensemble des bâtiments de l'administration pénitentiaire. Mais pareil, il a été en fait dénoncé au dernier moment. Il a eu aussi, et là, c'est la seule fois de sa vie, et c'est quelque chose qu'il a toujours regretté, je crois, mais il a eu à tuer un de ses co-détenus qui essayait de le tuer, en fait. Et il est devenu un spécialiste du droit pénal pour se défendre lui-même d'une part et pour défendre ses camarades d'incarcération. Il comptait même écrire une somme sur le droit et finalement bon, il a renoncé au bout d'un ou deux ans, mais il était devenu le grand spécialiste de des bagnes.
En tout cas, le docteur Rousseau, médecin militaire, arrive à sa rescousse et prend part de sa cause et surtout de la cause du bagnard en général. Et là, ils éditent un livre témoignage qui s'appelle « Vie au bagne ». Donc là où justement ça va bouleverser un peu les choses, il faut savoir que le docteur Rousseau était un médecin militaire sensibilisé par la cause du bagnard et se dit qu'il ne peut pas laisser les choses ainsi. Donc il s'accopine, je ne sais pas comment le dire, ils se rassemblent, Jacob et lui, et écrivent justement ce livre.
Je crois que c'est parce qu'il a sympathisé avec Marie Jacob qu'ils ont travaillé ensuite ensemble à la disparition des bagnes. Ouais.
En tout cas, ça le fait sortir du bagne.
Oui, c'est ce qui lui a permis de sortir au bout de 20 ans tout de même. Oui, il lui restait tout de même 5 ans à purger derrière ses 20 ans, c'est-à-dire qu'il a purgé 5 ans de plus que sa condamnation initiale. Cela dû à ses multiples tentatives, soit de se débarrasser de l'ensemble de l'administration du bagne, soit de s'évader, etc. Mais il a passé les 5 dernières années de prison dans la métropole, dans des prisons en France, sur le sol français. Voilà. Il a toujours refusé de plier, il a toujours refusé de se dédire de ce qu'il avait fait et de ses opinions politiques.
C'est rare les personnes qui tiennent autant. Hein.
Oui, il fait penser à des gens qui sont encore vivants en France. Hein.
Comme ?
Ben, je pense à Lucio, un anarchiste qui a failli faire tomber l'ensemble des banques en faisant des faux traveler chèques, etc., qui vit toujours à Paris. Et je pense aussi à Charlie Bauer, qui est mort récemment, qui lui faisait de la reprise individuelle d'un autre type et qui a passé aussi 25 ans dans les prisons françaises.
Mais lui, il était un peu plus cru, il me semble.
Charlie Bauer, ouais. Oui, il avait un langage assez... assez vif. C'est un Marseillais, un sacré Marseillais, quoi.
Allez, Jacob sort enfin du bagne, rentre en France et il s'installe je ne sais plus où. Je ne sais absolument plus
où. Il s'est installé du côté de Nancy ou de Strasbourg.
Voilà. Et là, il devient vendeur mobile. C'est-à-dire que c'est un... Il il marchande.
Oui, il semblerait qu'il se soit amusé à faire un dernier vol à sa sortie de prison, un peu pour faire la nique à la justice et à l'État français. Et ensuite, effectivement, il a vécu paisiblement en vendant sur les marchés.
Et il termine sa vie par... il met fin à ses jours.
Oui.
Par injection létale. La veille de sa mort, est-ce que tu sais ce qu'il fait ?
Oui, il a demandé à une amie... il était très ami avec un couple de ses voisins. Et il était amoureux de la femme. Et il a demandé à cette femme de passer la nuit avec elle. Et ce qu'ils ont fait, avec l'accord du mari. Et il s'est suicidé le lendemain parce qu'il ne voulait pas se voir vieillir et perdre ses facultés, etc. Ce qui était le cas de beaucoup d'anarchistes du début du XXe siècle, fait.
Le droit de choisir.
Oui, voilà. Autant ces anarchistes voulaient vivre leur vie, décider de leur vie, autant ils voulaient également, sans pleinement partie, décider de leur mort.
Ouais.
D'ailleurs, pour la petite histoire, le livre « Suicide mode d'emploi », qui avait fait couler tant d'encre et qui, en fait, est plus un brûlot politique qu'un mode d'emploi, a été écrit par deux anarchistes, Yves Le Bonniec et Claude Guillon.
Ravi de l'apprendre. Eh bien, avant de passer cette nuit folle avec cette dame autorisée, on dira, il a fait venir tous les enfants de son village. Il leur a donné de la limonade, du bon manger... Et puis bah, les enfants sont amusés. Et voilà, c'était pour lui, il n'a pas invité d'adultes, c'était pour lui une manière de rendre hommage un petit peu aux futures générations et essayer certainement de les influencer. Mais j'aime bien la nuit romantique aussi.
Oui, la vie de Marie Jacob, ça semble une sorte de roman. Mais en fait, le personnage a réellement existé, il est extrêmement attachant.
Extrêmement.
Et ses idées sont extrêmement généreuses. C'est l'abolition de l'exploitation, de l'oppression et de la domination.
C'est ça. On va rester sur ces mots, on va terminer là-dessus. Mmh. Et puis on va venir vous découvrir donc le lundi 6 août à 21h au Loco Loco. Et puis à prix libre.
Oui, c'est possible que Vincent prépare un repas avant. Normalement les Loco Loco sont fermés le lundi, là ils ouvrent exceptionnellement. Et normalement, il a prévu de préparer quelque chose à manger avant.
Il est chouette, ce Vincent. Hein.
Oui. Donc, c'est possible de venir avant.
Donc, on a dit lundi et mardi 7 à 20h à la salle communale de Bellegarde-en-Diois.
Oui, c'est parce que le collectif qui organise cette lecture est sur Marie-Vieille, qui est sur Bellegarde-en-Diois. Voilà. Marie-Vieille, c'est une ferme collective.
Mm-mm. Allez, tu as encore une ou deux petites infos, il me semble, à nous balancer, Yves.
Oui, mais alors ça n'a pas de rapport, c'est simplement que Stéphanie et Aline, dont j'ai malheureusement pas le contact là avec moi...
Je mettrai le lien si tu veux sur la page.
Oui, bah sinon c'est possible de passer un coup de fil à Marie-Vieille au 04 75 21 44 91. Oui, mais autant que je le dise avant. Ils organisent une journée peinture le 8, donc ça n'a rien à voir avec nos lectures théâtrales. C'est mercredi 8, c'est toute la journée peinture... un peu dans l'idée de l'art-thérapie. D'ailleurs, ça s'appelle « J'aime mes neurones ». Et donc voilà, c'est collectif, c'est autogéré, et c'est à Marie-Vieille, sur la commune de Bellegarde-en-Diois.
C'était la seule ?
Non, là, pour l'instant, je vois que ça. Ah si, c'est que cette journée, effectivement, « J'aime mes neurones », elle se situe dans une sorte de début... d'un cycle de journées qu'on va organiser fin octobre, que je peux d'ores et déjà annoncer, qui s'appelleront, je pense, « Résister à la psychiatrie », qui seront à la fois des journées critiques du monde psychiatrique, de l'enfermement ou de la médicamentalisation, et à la fois des essais de se rencontrer autour de cette critique-là et de la volonté d'échapper donc à l'enfermement ou à la médicamentalisation quand on pète les plombs ou autre, quand on va mal, et au contraire de créer des réseaux de solidarité, des réseaux d'entraide et d'utiliser des dispositifs ou des méthodes aussi d'autonomie, en fait, d'autonomie personnelle et collective qui permettent d'échapper
à cet enfermement.
Et aussi à l'enfermement tout bonnement des désignations comme psychotiques ou comme schizo ou que sais-je, ou comme paranoïaque.
Donc merci de ton engagement Yves, surtout n'hésite pas à venir nous faire partager des sujets sensibles qui nous touchent tous et dont souvent on fait abstraction parce qu'on a des soucis quotidiens qui nous empêchent de voir un petit peu cette réalité. Donc you are welcome et voilà, je te laisse le mot de la fin.
Eh bien, moi, merci à Radio Liwa à chaque fois pour m'accueillir. Et je voulais dire, ce n'est pas la peine de focaliser sur moi. Là, je parlais d'un collectif sur Marie-Vieille qui organise tout ça. Donc là, je n'ai fait que rendre compte de ce qu'on organise.
Mais voilà. Tu rends bien compte.
Je te remercie.
À plus.
À plus.
Interview. Interview. Okay, the bird.